Bonjour tout le monde. Donc moi je vais présenter ma communication sur le français congolais au fil de l'histoire postcoloniale. Quelle orientation didactique? Alors tout d'abord moi j'aimerais un peu me situer parce que je m'inscris dans des perspectives PH qui finalement envisage de pouvoir tout d'abord dire son expérience phénoménale de du sujet, du pays, de la question abordée. Voilà, j'ai fait mes études primaires et secondaires au Congo, au Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Et donc voilà, tout ce que je vais présenter est devrait, je pense, à considérer avec cette historicité-là. Donc, avec toutes les questions éthiques et politiques qu'une telle posture pourrait soulever. Pour cette question-là, je pense que c'est déjà intéressant de pouvoir parler d'orientation. Alors, c'est très bien, mercredi, lors d'une intervention de Véronique Castellotti, au cours des échanges, elle a parlé de la question d'orientation envisagée finalement comme ce qui guide la réflexion des chercheurs ou comment est-ce qu'on pense la recherche finalement. Donc, cette question d'orientation au cours de cette communication devrait être envisagée de cette façon-là. Voilà. Tout d'abord, des éléments de contexte. Donc, on parle bien de la République démocratique du Congo, hein, pas du Congo-Brazzaville, mais du Congo-Kinshasa, une ancienne colonie belge, donc de 1908 à 1960. Et donc un pays caractérisé par une diversité culturelle, ethnique, linguistique. Donc on retrouve par exemple dans la classe linguistique du Congo élaborée par les chercheurs du CELTA, on va en parler tout à l'heure, une description des plus de 221 langues et plus de 250 groupes ethniques. Alors en termes de langues, tout dépend toujours, hein, vous savez, de ce que l'on met derrière la notion de langue, de la conception même de langue, parce qu'il y a des recherches. J'ai d'autres auteurs congolais qui parlent d'un paysage linguistique à 450, à plus de 450 langues. Donc, tout dépend de la conception qu'on a de la notion de langue. Et dans ces pays, on va trouver quatre grands véhiculaires qui vont être, au fil du temps, élevés au rang de langue nationale, le Lingala, Kikongo, Chiluba, Kiswahili. Ce qui est très important à signaler, c'est que ces langues-là vont être utilisées à l'école au cours de la colonisation belge et qu'après l'indépendance, les nouveaux décideurs vont, pour des raisons qui ont été évoquées par pas mal des chercheurs africanistes, d'un côté la multiplicité des langues, de notre côté pouvoir pallier des conflits ethniques. Eh bien, ils vont décider de généraliser l'enseignement du français à tous les niveaux et d'exclure toutes les langues locales à l'école. Donc le français va s'imposer, hein, parce que comme langue officielle, langue d'enseignement, en 1960, donc après l'indépendance, ou langue des promotions sociales, on retrouve cette question-là à la fois chez Manessi, Calvé, ou voire chez des auteurs congolais, Kassendé, Niembo Tita, ou sur les différentes recherches que j'ai pu mener jusque-là. Au niveau de la pédagogie du français, de l'enseignement du français en République démocratique du Congo, on est plutôt. Alors, le ministère de l'enseignement supérieur parle plutôt d'une pédagogie du français qui ferait partie de la didactique des langues étrangères. Alors, ils ne sont pas très d'accord avec. Enfin, les chercheurs du Centre des linguistiques théoriques et appliquées qui a pour mission de mener de recherches sur la didactique de langue n'est pas du peut-être pas n'est pas toujours d'accord avec cette approche parce qu'il y a certains chercheurs qui parlent d'un double statut, que le français ne serait peut-être pas envisagé comme une langue étrangère, mais pas non plus comme une langue maternelle. Il y a d'autres qui disent, ben oui, ça dépend des situations et des élèves. Il y a des élèves qui appréhendent bien le français comme langue maternelle, il y en a d'autres comme langue étrangère ou langue seconde, ça dépend. Donc voilà. Vous avez la petite carte, hein, avec le Congo en Afrique. Donc, ensuite, ma communication, moi, je vais parler des différentes recherches menées par des Congolais entre les années 70 et 2015, et fin 2015, pour voir en quelque sorte la prise en compte des ce que moi j'appelle des Français congolais ou des certains termes emblématiques dans ces recherches-là, mais également comment est-ce que ces recherches vont se refléter dans des manuels d'enseignement du français. Alors, pourquoi partir des années 70? Il y a beaucoup d'arguments, hein. Tout d'abord, parce que c'est une période importante dans l'histoire du pays. C'est une période des réformes à la fois politiques, éducatives et linguistiques. Donc, il y a, après l'indépendance en 1960, les années 60, ça reste quand même une période des troubles au Congo avec des sécessions des provinces. Ce qui se passe, c'est qu'en 65, il y a le général Mobutu qui prend le pouvoir et qui essaye d'organiser les choses. À partir des années 70, il va y avoir une révolution culturelle, sociale qui va s'appeler qu'on va appeler la zaïrianisation, donc une idéologie des retours à l'authenticité. Et cette idéologie va marquer ce qu'on va appeler les grands retours des langues nationales à l'école. On va essayer de réintroduire ces langues-là qui étaient utilisées lors de la colonisation et qui a été supprimée par les décideurs de l'État indépendant, décideurs. Et l'autre fait remarquable, c'est que l'instauration du parti unique au pays, le mouvement populaire de la Révolution, les pays, le fleuve et la monnaie deviennent zaïre. Et donc, voilà. Et l'autre argument qui est intéressant pour partir des années 70, c'est la création en février 1971 du Centre des linguistiques théoriques et appliquées, qu'on va appeler CELTA, à l'université Lovanium, donc l'actuelle université de Kinshasa. Et c'est très intéressant hein, parce que hier, on a. Au cours de la communication de Daniel Véronique, il a un peu évoqué la question du rejet de la linguistique appliquée dans les années 70. Eh bien, là, on va avoir la création de ces centres-là au moment où, finalement, il y a ces rejets-là. Mais j'y reviendrai après. Et on aura en février 1974, donc un autre argument pour partir des années 70, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler le comité paritaire franco-zaïrois en matière d'enseignement supérieur, donc ce qu'on va appeler les accords franco-zaïrois qui vont être très importants finalement dans l'orientation même des chercheurs en matière de recherche en didactique du français. Et il y a le séminaire de 1974, le premier séminaire des linguistes et du Zaïre, puisque c'est une période de réforme et qu'il faut réintroduire les langues zaïroises à l'école, eh ben, c'est une aubaine pour les didacticiens et les linguistes zaïrois qui voient là une opportunité pour pouvoir financer la recherche. Ils vont se réunir à Lubumbashi en mai 1974 et créer ce qu'on va appeler la SOSALIN, la Société zaïroise des linguistiques. Et l'autre fait remarquable, c'est que pourquoi partir des années 70? C'est que les années 70 sont quand même marquées par plusieurs recherches sur le français régionaux, hein, surtout dans des centres de linguistique théorique et appliquée. On a vu, il y a des recherches faites par des chercheurs, Duponchel, Lafarge, Camus, Kefelec, Dumont et autres. Et voilà, donc c'était intéressant pour moi de partir de cette période-là parce qu'au regard de tous ces arguments-là. Alors, pour revenir un peu à la création du Centre de linguistique théorique et appliquée, on va voir que l'idée de création d'un tel centre vient du philosophe et homme de lettres et intellectuel congolais Valentin Yves Moudimbe et le professeur Sully Faye, qui vont être deux personnages très importants dans l'histoire aussi intellectuelle. Du Congo post-colonial. Et donc, deux mots pour Valentin Yves Moudimbe, c'est quand même quelqu'un qui va insuffler une orientation particulière à ses centres parce qu'il était un peu engagé sur des travaux post-coloniaux, mais également il avait une vision de la diversité, une vision de la diversité linguistique, la diversité des pratiques un peu particulière. Voilà. D'ailleurs, il va quitter le pays, il va fuir à la fin des années 70, au début des années 80, il va fuir les pays pour se réfugier aux États-Unis, pour va fuir la dictature des Mobutu, ce qui fait qu'en 1988, il va publier un ouvrage majeur sur les études postcoloniales, un ouvrage peu connu finalement du monde francophone, The Invention of Africa, l'invention de l'Afrique, l'ouvrage qui n'a été traduit en français qu'en début de cette année. Ceux qui suivent notre fil francophonie ont pu avoir cette information-là. Alors, on va retrouver en octobre 1971, donc un an après la création de ces centres, il y a la fusion des trois universités, hein, trois universités congolaises, zaïroises donc à l'époque, vont fusionner. L'université Lovanium, l'université officielle du Congo et l'université du Bois du Congo vont fusionner pour faire l'université nationale zaïroise. Là aussi, il faudrait y voir le désir du gouvernement de pouvoir avoir une orientation unique, parce que lorsqu'on va fusionner les trois principes les universités du pays, eh bien, les chercheurs n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre pour avoir un certain nombre d'orientations, en tout cas. Et en 1972, il y a donc Sulifai qui va donner l'impulsion aux recherches sur les particularismes lexicaux du français au Zaïre, et il va créer ce qu'on va appeler le groupe de recherche sur les africanismes, un bulletin. Alors là, c'est très important d'insister là-dessus parce que de cette période des 71 à 74, on a quand même une orientation au sein du CELTA qui est favorable à ces recherches-là sur les africanismes. Des particularismes, et il y a des questions sur le français congolais qui sont également posées. Et l'objectif de ces groupes de recherche sur les africanismes va être de créer un réseau de correspondants en vue d'une enquête systématique sur les particularités du français au Zaïre. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que cette recherche-là des 72 va être considérée comme une pré-enquête pour pouvoir donner lieu à d'autres enquêtes plus systématiques. Mais ce qui va se passer, c'est que les chercheurs du CELTA vont manquer de moyens finalement pour pouvoir financer des enquêtes plus tard. Alors, la deuxième période du CELTA, et qui marque également un changement dans son orientation scientifique, didactique, eh ben, c'est de 1974 à 1990. Rappelez-vous, j'ai parlé au tout début de ce premier séminaire des linguistes zaïrois. Voilà. Alors, au cours du séminaire, au cours de ces grands séminaires hein, des linguistes et pédagogues, et didacticiens zaïrois, ce qui va se passer, c'est que les intervenants vont demander à ce que le gouvernement puisse solliciter l'appui du technique du gouvernement français pour élargir finalement les accords de février 1974. Et ce qui va être fait, et les CELTA va commencer à fonctionner comme un projet de coopération franco-zaïroise. Donc, on quitte ces statuts des centres facultaires, centres de recherche spécialisés du ministère de l'Enseignement. Les CELTA va devenir du coup un projet de coopération avec deux objectifs. Le premier, ce serait l'élaboration et la diffusion des manuels d'enseignement du français et des langues zaïroises. Et le deuxième était du coup la formation permanente de professeurs chargés de l'enseignement du français, de français et des langues zaïroises. Alors, tout de suite, on remarque qu'il y a un changement de direction et donc d'orientation de la recherche en didactique du français au sein du CELTA. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, Sulifai va être remplacé par un autre directeur nommé par le ministère de l'enseignement. Et donc, on a une direction un peu à double tête hein, au sein du CELTA, avec un directeur zaïrois nommé par les ministères et d'un vice-directeur coopérant français. Alors, là, on pourrait se poser la question de l'orientation dans ces cas et des enjeux d'une telle coopération. Et finalement, cette orientation nouvelle du CELTA va se refléter dans le programme scolaire des 75 ou 76, qui va préciser que les textes choisis donc, pour l'enseignement du français le sont en fonction de leur conformation au français de l'Académie française. Donc là, on voit que l'orientation didactique même va changer dans le pays. Et donc, en tant que projet de coopération, donc le CELTA est doté hein, de moyens considérables. Alors, moi, je me suis posé la question, pourquoi le groupe de recherche sur les africanistes mené par Souli Faik va quand même manquer de moyens pour pouvoir mener à bien ses recherches, alors même que le CELTA avait, comme projet de coopération, avait beaucoup de moyens. Est-ce que finalement, la nouvelle direction du centre s'est opposée à ces genres de recherches, ou est-ce que les accords franco-zaïrois imposaient-ils aux chercheurs du CELTA une orientation didactique du coup centrée sur le français de France, de l'Académie française? Je soulève la question, mais vous avez vu, le programme de 76 précise bien qu'il s'agit du français de l'Académie française qu'il faut mettre en avant. Et j'ai essayé d'interroger, hein, avec beaucoup de mal, parce qu'il y a eu beaucoup de refus, j'ai essayé d'interroger les didacticiens congolais à ces sujets, et voilà, la plupart d'eux affirment que ces recherches-là n'était plus une priorité hein, au sein du CELTA à partir du CELTA devenu projet de coopération. Et l'impact, la conséquence de cela, c'est qu'en 1979, quand vient le projet IFA, donc inventaire des particuliers du français en Afrique noire, Souli Faik, comme il n'avait pas de moyens pour mener à bien ses recherches, va utiliser les observables de la pré-enquête de 72 dans le projet IFA. Donc, ce qui se trouve dans le projet IFA aujourd'hui ne sont quelques pré-enquêtes menées en 72, puisqu'ils n'avaient pas suffisamment de moyens. Alors, si on passe dans les années 80, comment ça se passe ces recherches-là sur le français zaïrois? Eh bien, on retrouve quand même quelques recherches significatives avec la thèse de Nyembo Ntita en 91 sur le français et les langues congolaises en contact. Et on trouve également quelques recherches de Kilanga Moussindé, de Ngala Soumouat Moussanj et d'autres chercheurs congolais. Et voilà. À partir des 90, donc, c'est la fin de la coopération franco-zaïroise et les CELTA va redevenir un centre facultaire et service spécialisé de l'enseignement supérieur. Alors, il faut quand même un peu situer les années 90. C'est quand même une décennie très difficile pour les Congolais. C'est une période de transition, c'est la fin du parti unique. Il y a des troubles et des pillages, il y a des génocides rwandais à l'est du Congo, avec des génocides rwandais avec ses conséquences à l'est du pays. C'est la fin du régime de Mobutu. Oui.
Encore 5 minutes, s'il te plaît.
D'accord. Alors, on va voir qu'en novembre 91, donc signe de cette rupture de coopération, il y a un changement de direction du CELTA. André Nyembo Ntita, qui était ancien assistant de Souli Faik et qui faisait du coup partie du groupe de recherche sur les africanistes, va prendre la direction du centre. Ce qui va se passer finalement, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de changement d'orientation avec ces changements de direction, puisque la perspective du français de l'Académie française est déjà inscrite dans le programme scolaire et que comme le programme scolaire n'a pas beaucoup changé, mais on retrouve quand même quelques recherches significatives chez les Congolais. Il y a la recherche de Camille Sessebtial, de Nyembo Ntita et de Romain Kassoro Toumboué et d'autres recherches. J'y reviendrai peut-être au cours des échanges. Alors, j'ai essayé un peu de regarder dans des manuels de français. J'ai essayé d'analyser une vingtaine de manuels de français chez une dizaine d'éditeurs. Alors, ce que je remarque finalement, c'est que en avant-propos, tous précisent cette idée de véhiculer un français conforme à l'Académie française pour respecter les programmes. Alors, ce qu'on va également retrouver, c'est qu'il n'y a pas de manuel programme en République démocratique du Congo et que chaque année, chaque décennie, le ministère de l'Enseignement va publier ce qu'il va appeler les répertoires des manuels scolaires agréés. Et la dernière version date de 2010 à 2017. Et dans ce que je remarque, j'observe dans ces ouvrages-là, c'est que les formes locales ne sont pas étudiées, ni mentionnées même dans des textes fabriqués par des auteurs. Il y a quand même une présence de certains termes dans des textes littéraires, donc contexte socioculturel négro-africain oblige, mais ces termes, ces caractéristiques ne sont pas expliquées dans des notices. Alors, ce qu'en disent les chercheurs congolais, hein, c'est que en RDC, on va enseigner le français des références, illustré par le bon usage de Maurice Grévy. D'ailleurs, en anecdote, quand on était encore étudiants, élèves au Congo, on appelait souvent nos professeurs de français Monsieur Grévis parce qu'il s'est promené avec le bon usage toujours sous la main. Et cette perspective est expliquée par les chercheurs du CELTA en disant que finalement, la norme des références, il fallait se fier à la norme des références des programmes tout en restant attentif aux normes endogènes. Et d'autres chercheurs mettent en avant le fait qu'il faut préserver l'intercompréhension entre francophones comme argument finalement pour ne pas trop parler de ces particularités. Alors, j'ai regardé les manuels de deux premières classes du secondaire et deux dernières classes pour essayer de voir comment est-ce que cette question de français est traitée. Et finalement, ce que j'observe, c'est que on va insister sur le fait de tenir compte du principe d'adaptation de l'enseignement du français aux réalités des enfants congolais, c'est ce qu'ils insistent, mais qu'au fond, ces formes-là ne sont pas vraiment traitées. Et voilà, il y a aussi, on a des textes situés, hein, bien sûr, qui découvrent la quotidienne des élèves, mais la vie quotidienne des élèves, mais dans un français, non seulement dans un français de référence, mais également dans un registre. Par exemple, on va retrouver des textes destinés aux enfants des premières années secondaires qui vont parler d'établir un parallélisme. Hein, eh bien, on s'est dit finalement, il y a un problème, non pas seulement de normes de référence, mais également des registres qu'on va présenter à ces élèves-là. Et c'est pareil hein, pour la classe des deuxièmes années où on retrouve beaucoup de textes qui insistent sur les cadres socioculturels négro-africains, mais finalement, la majorité de ces textes datent des années 50, donc pendant la colonisation, et sont édités par des grandes maisons d'édition françaises, Plon, Stock, Flammarion et autres. Et c'est la même chose pour les deux dernières classes du secondaire, où on retrouve quand même deux manuels importants, Anthologie de l'auteur belge Clotilde Meuls et Florilège de l'auteur congolais Babuda Malibato. Donc, vraiment, on a aussi ces problèmes-là de la présentation des auteurs négro-africains des littératures françaises, mais aussi cette absence des notices bibliographiques. Il y a des notices bibliographiques importantes, mais il y a aussi cette absence donc des traitements des termes ou des particularités des variétés locales. Voilà. C'est ce qu'est dit le chercheur Makomo sur le fait que les textes qui expriment l'appropriation du français par les auteurs négro-africains sont tout simplement escamotés. Alors, en conclusion, on voit que 30 ans après la fin de la coopération franco-zaïroise, il n'y a pas vraiment de changement d'orientation dans la recherche en didactique du français en République démocratique du Congo. Alors, on retrouve par-ci, par-là quelques recherches hein, sur les particularités du français au Congo, mais toujours dans cette perspective un peu topolectale, lexicale, différentielle. Voilà. Et on voit aussi que les formes conformes au français de l'Académie française sont toujours recommandées dans le programme. Les derniers programmes du français, ça date de 2005. Et on est toujours dans ce que Suzanne Lafarge appelle le grand paradoxe du français en Afrique, hein, des enseignants qui disent enseigner la norme exogène, alors qu'est-ce qu'ils font? C'est de la norme, ce qu'ils maîtrisent peut-être. Alors ça, c'est à discuter, à serrer. D'un norme exogène. Et on a aussi cette question du français. Est-ce que les Français congolais et si les Français congolais sont si évidents que ça? Je préfère qu'on revienne sur ça au cours des échanges. Et voilà, poser cette question soulève, moi, je pense, la question éthique et politique. Et voilà. Bon, ce qui est précisé chez les chercheurs congolais, les didacticiens congolais, c'est que les formes locales doivent être signalées et corrigées. par les professeurs de français. Et voilà, moi je me suis demandé, est-ce que finalement la solution ne serait pas, au lieu d'aller plutôt vers des formes de promotion de ces formes, de ces variétés locales, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas investir beaucoup plus dans des bonnes formations des professeurs de français? Voilà. Je vous donne la parole, excusez-moi, j'ai un peu débordé.